2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, c'est une première historique. Une femme prend la tête du Comité international olympique. Il s'agit de Kirsty Coventry, l'ancienne nageuse zimbabwéenne de 41 ans. Lors de son discours, elle a souhaité rendre hommage à une autre femme, vous l'entendrez. En Turquie, l'arrestation de l'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan provoque la colère des manifestants. Ils étaient des milliers à demander sa libération ce jeudi. Lui aussi est arrêté. 10 ans de prison requis contre Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, connu pour ses critiques du pouvoir algérien, est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et puis les glaciers du monde entier sont en danger à cause du dérèglement climatique. Ils sont plus de 270 000 dans le monde. L'état des lieux est inquiétant. Vous avez les titres ? Bienvenue. Elle faisait partie des favorites à la succession de Thomas Barr. L'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry, 41 ans, est devenue ce jeudi la première femme à la tête du Comité international olympique. Victoire à la majorité absolue dès le premier tour de scrutin. Première femme et première africaine à obtenir le poste, la double championne olympique du 200 mètres d'eau en 2004 et 2008 est un symbole, mais elle a tenu à rendre hommage à une autre membre du CIO qui a longtemps été son modèle, l'américaine Anita de France.
Il y a eu des femmes incroyables qui m'ont précédée. L'une d'elles est assise dans cette pièce aujourd'hui, Anita de France. Une immense source d'inspiration pour moi et pour de nombreuses femmes. Et je suis vraiment fière de pouvoir la rendre fière. Elle a été la première femme à se présenter à ce poste. Et comme je l'ai dit, elle m'a inspirée. Elle a été un mentor formidable pour moi depuis mon entrée dans le mouvement en 2013. C'est significatif. Je pense qu'il faudra un peu de temps pour prendre mes marques. Des femmes comme elle ont ouvert la voix à des femmes comme moi. Et je veux ouvrir la voix à la jeune génération, surtout parce que j'ai deux jeunes filles.
Kirsty Coventry prendra ses fonctions le 23 juin prochain. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien limoge Ronen Bar, chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Les relations entre Benjamin Netanyahou et Ronen Bar se sont envenimées depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Il quittera ses fonctions le 10 avril prochain. En attendant, ce jeudi signe la première riposte du Hamas après les attaques meurtrières de l'armée israélienne qui ont fait plus de 500 morts en 3 jours selon la défense civile palestinienne. Le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv et appelle la Ligue arabe ainsi que l'Organisation de la coopération islamique à faire pression pour mettre fin au génocide. De son côté, l'armée israélienne a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse l'enclave du nord au sud. Elle ajoute que son opération terrestre à Rafah doit s'étendre dans le centre et le nord de la bande de Gaza. Manifestation massive en soutien à l'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan. Pour la deuxième journée consécutive ce jeudi, des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de rassemblement pour dénoncer l'arrestation du maire d'Ekrem İmamoğlu. Vous ne pouvez et ne devez pas vous taire, message sur X du maire d'Istanbul au lendemain de son arrestation. Une foule importante s'est massée en soirée devant la municipalité d'Istanbul, malgré un imposant dispositif policier déployé en ville. Anastasia Becchio.
Juché sur le toit d'un bus aux côtés de Dilek, l'épouse d'Ekrem İmamoğlu, le président du CHP fait promettre aux manifestants de ne pas abandonner la lutte jusqu'à ce que le maire d'Istanbul et les autres maires emprisonnés soient libérés. La rue est à nous pour exiger justice sans recourir à la violence de manière démocratique contre Recep Tayyip, lance Özgür Özel au micro devant une foule compacte. Rassemblés devant la mairie d'Istanbul, les manifestants brandissent des drapeaux des partis d'opposition, scandent des slogans appelant à la démission du président turc, jugé responsable de l'arrestation de son principal rival. Dans la soirée, des échauffourées ont éclaté. Selon les images de l'AFP, des policiers ont fait usage de balles en caoutchouc pour bloquer un groupe de jeunes manifestants qui tentaient de se diriger vers le lieu emblématique de la contestation, la place Taksim, entièrement barricadée. Le CHP a lancé un appel à un nouveau rassemblement de protestation ce vendredi, même heure, même endroit.
Double libération ce jeudi. George Glezman, prisonnier des talibans pendant plus de 2 ans, a quitté les geôles afghanes. Et ce, après une visite des responsables américains à Kaboul. Libération également pour Olivier Grondeau. L'homme de 34 ans avait été arrêté en Iran et condamné en octobre 2022 à 5 ans de prison pour espionnage. Lui risque 10 ans de prison, une peine requise par un tribunal près d'Alger ce jeudi à l'encontre de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien, connu pour ses critiques du pouvoir, est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Cela fait 4 mois qu'il est emprisonné en Algérie. Un processus purement politique, dénonce son avocat. Pour Arnaud Benedetti, fondateur d'un comité de soutien, il y a une accélération de la procédure judiciaire.
On est inquiet parce que les motifs de son arrestation reposent sur des charges qui sont toutes politiques. Il est aujourd'hui incarcéré en raison de sa liberté d'expression. Il est incarcéré aussi du fait de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Après, nous, au niveau de ce que nous faisons et de ce que nous avons déjà fait, c'est bien évidemment de maintenir la pression de la mobilisation à la fois médiatique sur l'opinion, sur le politique, pour que tout soit fait. C'est-à-dire que tous les leviers que nous avons à notre disposition pour essayer de trouver une issue rapide au sort détestable dans lequel les autorités algériennes ont plongé Boualem Sansal soient en effet mises en œuvre.
Arnaud Benedetti, joint par Sylvie Coffi. De son côté, Emmanuel Macron souhaite une issue rapide de cette affaire qui envenime des tensions déjà fortes entre Paris et Alger. L'Ukraine ne discutera pas d'un transfert de la propriété de ses centrales nucléaires aux États-Unis. Volodymyr Zelensky ferme la porte à la proposition de Donald Trump, évoquée mercredi dans un échange téléphonique. Le président ukrainien appelle les Européens à rester fermes face à Vladimir Poutine. Message adressé en visioconférence lors du Conseil européen à Bruxelles ce jeudi. Une rencontre entre la Russie et les États-Unis est prévue lundi en Arabie Saoudite pour discuter d'une trêve limitée en Ukraine. Jeudi prochain, un sommet de la coalition de volontaires se tiendra à Paris en présence du président ukrainien. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron. En Haïti, les gangs veulent réduire les médias au silence. C'est l'alerte lancée par l'UNESCO ce jeudi. La semaine dernière, une chaîne de télévision et 2 radios ont été attaquées et pillées. Pour Eric Volibi, représentant en Haïti de l'Agence de l'ONU pour la culture et la science, le but est d'empêcher que l'information juste et transparente puisse être connue des Haïtiens et Haïtiennes. Ces dernières semaines, la capitale, Port-au-Prince, fait face à une nouvelle flambée de violence des gangs. Partout, ils craquent, se morcellent et fondent. Les glaciers n'échappent pas au dérèglement climatique. Il y en a plus de 270 000 dans le monde. Ceux des régions tropicales sont les premiers touchés. Aux confins de l'Ouganda s'étend la vaste chaîne des montagnes du Rwenzari, des paysages uniques en Afrique qui abritent un géant en sursis, l'un des derniers glaciers du continent. La glaciologue Eddie Sevestre a participé à une expédition organisée par l'UNESCO en février dernier pour dresser un état des lieux de ce glacier.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des images, des photos prises sur place de ce glacier en 1906. Il y avait un photographe italien, Vittorio Sella, qui avait fait des photos. Donc on a des preuves de l'étendue passée du glacier, bien avant qu'on ait des satellites. Et on estime la perte de masse totale des glaciers des Rwenzori aux alentours de 90%, voilà, depuis cette période-là. Le glacier du plateau du Stanley perd plusieurs mètres d'épaisseur chaque année, hein. C'est extrêmement rapide, mais grâce au radar, il semblerait, alors on n'a pas encore publié les résultats, il faudra le faire bientôt, il semblerait qu'il y ait une zone où il y a encore bien 50-55 mètres d'épaisseur de glace, donc il y a un petit champignon de glace quelque part, ça permet au glacier d'en avoir encore un petit peu sous le coude, mais malheureusement c'est des glaciers qui sont voués à disparaître à terme.
Et puis vous pouvez retrouver la glaciologue Eddie Sevestre et ses collègues dans C'est pas du vent, 14h10, heure de Paris, 13h10, temps universel. Et puis quelques mots de football avant de refermer ce journal. Quart de finale aller de la Ligue des Nations. Désillusion pour les Bleus qui butent sur la Croatie. Défaite 2-0 à Split. Le match retour est prévu ce dimanche. 2-2 entre les Pays-Bas et l'Espagne. Victoire de l'Allemagne contre l'Italie. 2-1. Et puis le Danemark s'impose 1-0 face au Portugal. RFI bientôt 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 50 minutes. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.